Vraiville PM. Paranormal.
The flying disc has been found.
A mythical chupacabra.
Les enquêtes de Christian Page.
Christian, parle-nous d'affaires bizarres. J'adore ça.
Mais on va commencer avec une nouvelle un peu légère, si tu veux. Parce qu'on a eu des sujets là, en cours d'émission qui étaient un peu lourds.
Oui, il a fallu y aller.
C'est des choses qu'il faut, parler. Alors, on commence avec une nouvelle un peu légère. J'imagine, comme beaucoup de gens, le 2 juillet dernier, tu as probablement passé ta soirée à fêter la Journée internationale des ovnis.
Hey, écoute, c'est tellement important. Il y a juste toi qui m'est arrivé avec ça, j'en reviens pas. Je m'imagine
effectivement,
tellement.
Là. Donc, le 2 juillet, c'est la journée.
Comment tu fêtes ça? Là? Tu mets tout nu, tu fais un salut au soleil. Qu'est-ce que tu fais là?
Puis tu te fais des yaourts en espérant d'avoir un contact.
Tu cherches un contact.
Mais bref, effectivement, depuis quelques années, c'est devenu le 2 juillet. Avant, c'était le 24 juin. Probablement que les extraterrestres se sont dit, ça tombe en même temps que la Saint-Jean va changer ça. Donc maintenant, c'est le 2 juillet, et ça, c'est depuis quelques années. Donc, c'est la Journée internationale des ovnis. Mais cette fois, la petite ville de Pascagoula, au Mississippi, ont décidé de damer le pion un peu aux ufologues et de les devancer de vitesse en commémorant un événement qui s'est produit en 1973. Et ils ont commémoré la chose en dévoilant une plaque historique. Tu sais, le genre de truc qu'on retrouve parfois dans des parcs, une plaque qui rappelle un événement qui s'est produit.
Et oui, événement qui s'est produit, c'est ça la différence, Christian.
Dan, je pense...
Mais je vais retenir ça, faut que je me laisse porter
je
par
te raconte l'histoire.
Vas-y.
Et elle va te convaincre, ça va de soi.
C'est certain.
Donc, on est le soir du 11 octobre 1973. Mm-hmm. Dans cette petite ville de Pascagoula, au Mississippi, on a deux hommes qui vont pêcher dans la rivière Pascagoula, qui se jette dans le golfe du Mexique. Alors, l'un d'entre eux, un certain Calvin Parker, a 19 ans, et son compagnon Charles Dixon, a 42 ans. Ce sont deux hommes qui travaillent au même endroit et ils ont une passion commune pour la pêche. Donc, ils s'en vont, ils se placent en fait sur un promontoire qui domine un peu la rivière Pascagoula. C'est très isolé. Et voilà qu'alors qu'ils sont en train de pêcher, il y a à peu près 20 heures, leur attention est attirée par une série de lumières bleutées. Au début, ils se retournent et ils voient des espèces de flashs de lumière. Ils ont l'impression que c'est une voiture de police qui se dirige dans leur direction, peut-être pour leur signifier qu'ils sont à un mauvais endroit pour pêcher ou quoi que ce soit. Et soudain, ils voient apparaître devant eux un objet qui fait à peu près 2,50 mètres de haut sur à peu près 4 mètres de large. Ça ressemble à une espèce de ballon de football. Il y a deux lumières bleues sur un côté qui flashent rapidement. Une porte s'ouvre et les hommes voient apparaître dans l'ouverture...
Du ballon de football.
Dans le ballon de football, on les voit apparaître trois créatures qui sont pas très grandes. Elles font à peu près 1,60 m. Elles sont grises. Ils vont dire plus tard, elles ressemblaient un peu à des momies dans des films, les vieux films d'horreur. Mais en lieu et place du nez et des oreilles, ils ont des espèces de pointes, un peu comme des glaçons. Leurs mains sont des pinces. Les créatures sortent de l'engin.
J'en ai vu plein de ça quand je travaillais dans un bar. Voyons donc. Est-ce qu'ils ont pris des photos?
Non. Alors, les créatures sortent en flottant. Elles flottent pratiquement au ras du sol. Elles s'approchent des deux hommes. L'un d'entre eux, le plus jeune, Calvin Parker, s'évanouit alors que les créatures s'approchent de lui. Elles le saisissent, l'une d'entre elles le saisit par un bras. Les deux autres se chargent de l'autre individu, Charles Dixon, toujours bien éveillé. Et les créatures les amènent à bord de l'engin.
Le ballon de football.
Alors qu'ils sont à l'intérieur, ils sont séparés. Et Charles Dixon va raconter plus tard, parce que lui, il est éveillé. Il dit, ils m'ont amené dans une pièce, ils m'ont étendu sur une espèce de table. Et là, sortant du plafond, un appareil semblable à un œil m'a ausculté, comme s'il cherchait à obtenir de l'information sur notre anatomie. Et ensuite, après une heure de cet examen...
Mais c'est un instrument extraordinaire. Un œil gigantesque pour ausculter, on devrait appeler le CHUM, le droit de prendre ça.
Dan, tu es en train de couper mes punches.
Oh, je suis désolé, pardon.
Les créatures, après coup, les sortent à l'extérieur du véhicule et vont les déposer sur le sol. Ils retournent dans l'engin, la porte se ferme et merci, bonsoir, le ballon de football disparaît rapidement dans le ciel. Le soir même, les deux hommes vont se présenter au bureau du shérif. Ils ne sont pas ivres. Le shérif dira éventuellement que les hommes semblent avoir été vraiment bouleversés par un événement. Et aujourd'hui, donc, on est des années après cet événement, en fait presque 45 ans après les événements. L'un d'entre eux, Charles Hickson, le plus âgé à l'époque, est décédé en 2011. Le jeune Calvin Parker, aujourd'hui âgé de à peu près 65 ans, est toujours vivant. Il a changé un peu son histoire avec le temps. Il dit qu'en réalité, il ne s'est pas évanoui. C'était une entente qu'il avait avec Charles Hickson parce qu'il ne voulait pas que les médias s'accrochent derrière lui pour qu'il ait à raconter à satiété cette histoire. Mais il dit qu'il est demeuré éveillé tout le temps, qu'il a vécu une expérience assez semblable à celle de son compagnon à bord de l'OVNI, à la différence près qu'à un moment donné, l'une de ces créatures à pinces et grisâtres aurait quitté la pièce pour être remplacée par une créature aux traits plus humains qui lui aurait parlé par télépathie en lui disant « Ne craignez rien, n'ayez pas peur de rien, nous ne vous ferons aucun mal ». Ensuite, elle a quitté et elle a été remplacée par cette fameuse momie à pinces. Donc, inutile de dire...
La momie à pinces n'a pas essayé d'agresser sexuellement.
Non, les deux hommes ont pensé d'ailleurs que les fameuses créatures à pinces étaient peut-être des espèces de robots intergalactiques.
Ils n'ont pas pensé à des homards.
Écoute, je partage ton scepticisme. Je suis pas tout à fait convaincu de cette histoire, mais c'est quand même là où je voulais en venir. C'est on fait une plaque commémorative dans un parc pour rappeler cet événement.
En forme de pince d'eau mort.
Voilà, juste aux côtés d'un restaurant de fruits de mer. Et ça s'appelle le Lighthouse Park. C'est le parc du phare. Mais écoute. Il y a tout le temps un peu un truc là-dedans qui m'agace, en ce sens que j'ai vu la plaque en question, j'ai lu le texte, et on n'utilise pas le conditionnel, tu comprends? On raconte ça comme si ça s'était réellement passé, alors que, tu le mentionnes, on n'a absolument rien qui prouve ça. On a le témoignage de deux joyeux lurons qui racontent avoir été enlevés par des extraterrestres.
Il y en a au moins qui prennent des photos.
Et là, ils n'ont pas de photos, ils n'ont rien, et c'est bien beau de dire, bon, ces gens-là semblent crédibles, c'est beau que le shérif nous dit... ces gens-là n'avaient pas apparemment bu ou étaient visiblement en état de choc. Néanmoins, tu connais l'expression, une affirmation extraordinaire, on demande une preuve extraordinaire et dans le cas présent, on ne l'a pas. Et cette plaque, moi, je me questionne toujours, je me dis, bon, ben, les jeunes qui vont lire ça un peu, qui sont un peu naïfs, qui vont lire ça, ils vont peut-être prendre ça au premier degré en disant, ben voilà,
c'est une religion,
si la ville de Pascagoula cautionne un événement comme celui-là en mettant une plaque, est-ce qu'éventuellement, ça ne veut pas dire que c'est vrai? Si c'est vrai, bien, je dois accepter la teneur de ce récit-là comme authentique. Là, je pense qu'il faut quand même un bémol qui n'est pas dans cette plaque-là. Néanmoins, tout est bon pour le tourisme au pays de l'oncle Sam. Et donc là, les amateurs d'OVNI ont droit. Ce n'est pas la première fois. Il y a plusieurs endroits aux États-Unis qui ont été marqués par des événements de type OVNI et pour lesquels on a mis des plaques comme ça sur le long de le bord de la route ou dans un parc pour rappeler cet événement. Tout près de chez nous, ici au New Hampshire, juste dans les Montagnes Blanches, il y a un événement célèbre dans l'histoire des OVNI, l'enlèvement. Oh, les enlèvements, c'est populaire. L'enlèvement d'un couple américain. Lui était noir, elle était blanche. Un couple interracial au début des années 60, c'était rarissime.
Ils sont probablement encore noirs.
Oui, mais ils sont décédés et ils ont été enlevés par... Ils ont raconté avoir été enlevés par des extraterrestres. C'est devenu un peu l'histoire étalon de toutes les histoires d'enlèvement aux États-Unis.
Ah, c'est parti d'une, puis il y a eu
voilà,
des
copies. Voilà, donc après ça, il y a eu des copies. Et cette histoire-là, donc, s'est produite dans le parc des White Mountains au New Hampshire. Et si on arrive à la station, il y a une espèce de belvédère où on peut s'arrêter pour voir un monument qui s'appelle The Old Man of the Mountains, une espèce de sculpture en pierre. Ben, si les gens arrêtent là, il y a sur le bord de la route une plaque qui a été mise là par l'État du New Hampshire qui rappelle que c'est à l'endroit où ce couple, Betty et Barney Hill, affirme avoir été enlevé par des extraterrestres.
Est-ce qu'ils mettent ça au conditionnel?
Non, non, dans ce cas-là aussi, quand on lit la plaque.
C'est un peu achalant, ça.
Mais on est plus tempéré. On dit le témoignage, et là, on rapporte le témoignage. Alors que dans le cas de Pascagoula, là, on est beaucoup plus dans l'affirmatif que dans le conditionnel. Mais enfin,
moi, si je prétends que j'ai été knocké par deux jumeaux, généralement, je m'assois au conditionnel. C'est probablement que je vois double après achat, c'est tout.
Écoute, c'est une partie de pêche un vendredi soir. Tu sais, les histoires de pêche, celle-là est dure à battre quand même. Se faire enlever par des extraterrestres en allant pêcher, en allant taquiner le poisson dans la rivière Pascagoula, c'est quand même spécial.
Bon, écoute, Écoute, tu m'as encore fasciné. Je pense que tu vas m'avoir à chaque jour. Quand il y a une histoire qu'on ne peut pas raconter aujourd'hui, on va la raconter demain. Hein?
Oui, il n'y a pas de problème.
On va les accumuler. Là, on va faire une pause, puis après ça, on va continuer avec une deuxième histoire avec toi. J'ai envie de te garder.
Ça m'en fait plaisir.
Après la pause.
Des sujets qui vous touchent et qui vous font réagir. Voici Dan Bigra.
Mon cher Christian, moi, si quelqu'un me raconte qu'il est mort puis qu'il est revenu parce qu'il y avait une lumière au bout du tunnel, tout ouais. Belle, il est mieux d'avoir filmé puis de me ramener ça. Je suis un sceptique total tout le temps, mais je me trouve un peu plate.
Ouais.
J'ai envie d'entendre ça.
Mais tu
là,
sais,
tu dans... parles de mort imminente.
Ouais, mais tu
là.
Sais, dans l'expérience que tu racontes, elle est admise dans les milieux de la science. Hein? L'expérience, elle est admise. Donc, à peu près 10%
oui,
de la
résultat...
ou l'interprétation qu'on en oui. fait. Et là, tu as tout à fait raison. Et ce que j'adore dans les phénomènes étranges et mystérieux, c'est lorsque la science essaie de mieux comprendre ces phénomènes. Donc, il y a à peu près 10% de la population qui ont vécu ce type d'expérience que tu racontes, l'expérience de la mort imminente. Tu l'as bien décrite, ce sont des gens qui, généralement, dans des états de proches de la mort, vont vivre une expérience presque mystique. Ils ont l'impression de sortir de leur corps, de voyager dans un tunnel, de voir une lumière. Et souvent, c'est accompagné avec des rencontres d'êtres de lumière. Ils voient leur vie défiler devant leurs yeux et réintègrent leur corps. Donc, c'est à peu près, grosso modo, l'expérience de la mort imminente.
On ne devrait pas attendre la mort. Le pot est légal, là.
Et tu as en partie raison. Hein. On sait qu'aujourd'hui, on est capable de stimuler le cerveau de manière artificielle ou chimiquement pour provoquer l'expérience de la mort imminente. Mais il y a à peu près 10% de la population qui ont vécu cette expérience-là. Et enfin, la fin de semaine dernière, se tenait à Oslo le congrès de l'Académie européenne de neurologie. Donc, ce sont des scientifiques.
C'est des scientifiques.
Et voilà, okay. Il y a des chercheurs de l'Université de Copenhague qui ont présenté une nouvelle étude sur les expériences de mort imminente. Et cette fois-là, c'est peut-être l'échantillonnage le plus important. On avait, et je ne veux pas te saouler avec des chiffres parce que je sais à la radio, c'est toujours barbant un peu des chiffres, mais disons qu'on est allé chercher plus de 1000 participants qui étaient regroupés dans 35 pays, donc des gens qui ont accepté de répondre à des questions concernant leur état médical. Et parmi les différentes questions qu'on leur pose, il y avait des questions pièges parmi elles. Il y en avait qui étaient un peu farfelues. Et parmi celles qui auraient pu, à première vue, paraître farfelues, il y avait « Avez-vous déjà vécu une expérience de mort imminente? » Donc, le tunnel, la lumière et tout le reste. Et il faut savoir que 289 personnes parmi les sondés ont répondu que oui. À travers ces 289, on avait amené des experts qui avaient étudié les phénomènes de mort imminente, qui connaissaient bien le mécanisme. Mm-hmm. Donc, on a éliminé un certain nombre pour arriver avec 106 personnes qui avaient vécu une expérience de type mort imminente, mais que leur expérience correspondait, disons, à la vision type de la mort imminente. Donc, 106 personnes. Et il y a plusieurs constats qu'on a faits qui étaient tout à fait surprenants. D'abord, 50% des gens qui ont vécu ces expériences-là ne les ont pas vécues dans une période où ça mettait leur vie en danger. Donc oui, 50% lors d'un accident de voiture, un accident de moto, etc. Mais d'autres, des femmes par exemple, lors d'un accouchement, ont vécu une expérience semblable à ça. D'autres, des gens dans des grandes détresses psychologiques, ont vécu ce type d'expérience. Et là où il y a la grande révélation de cette étude, plus de 50% des gens qui ont vécu cette expérience de mort imminente sont également des gens qui souffrent de parasomnie. Donc, ce sont des troubles du sommeil. Et parmi les troubles du sommeil les plus étonnants, il y a la paralysie du sommeil. Donc, des gens
c'est
qui...
atroce, ça.
Donc, des gens qui se réveillent, ils n'ont pas le contrôle de leur corps, mais ils ont conscience de leur environnement. C'est une parasomnie qui est bien connue, qui est bien identifiée dans les milieux de la neurologie.
Ils sont bien réveillés, mais ils ne peuvent pas bouger rien.
Voilà. Et curieusement, dans la population en général, 14% des gens souffrent de ce type de parasomnie. Dans le cas des gens qui disaient avoir vécu des expériences de mort imminente, c'était 50%. Alors, pour la première fois, on ne connaît pas la mécanique, on ne connaît pas la cause à effet, mais pour la première fois, les neurologues sont confrontés à un constat en disant, c'est curieux, les gens qui, dans leur vie, souffrent plus régulièrement de paralysie du sommeil sont les mêmes gens qui auront tendance à faire des expériences de mort imminente.
Écoute, on va alors, se rapprocher de la vérité que, à un moment donné puis comprendre.
Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la chimie de leur cerveau entre le fonctionnement d'une neurone qui fait que ces gens-là deviennent plus disposés ou prédisposés à faire ce type d'expérience hors corps et de vision, parce que c'est probablement un phénomène de l'intérieur et non pas de l'au-delà, même si on ne peut pas trancher de manière définitive.
Il n'y a personne qui a filmé de l'autre bord, voilà. Pour, tu sais, il n'y a pas de preuve là.
Cette étude, elle est fascinante parce que, encore une fois, on ne remet pas en question l'expérience vécue par les gens, on l'accepte, oui. Mais encore une fois, la science essaie de se rapprocher vers une explication rationnelle sans nécessairement rejeter la possibilité d'un au-delà.
Mais je trouve que c'est en chemin, moi, c'est très, très,
c'est
très
fabuleux,
bien.
C'est fabuleux.
C'est pas comme les ovnis. Les ovnis, ils prennent toutes des photos, mais je trouve qu'on y croit, on y croirait peut-être un peu moins si les photos n'étaient pas toutes à 100% floues.
Tu devrais savoir, Dan, que les ovnis sont équipés d'un système de floutage. Dès que quelqu'un braque un appareil photo vers l'ovni, on floute la photo.
On floute la photo. C'est ça que ça fait avec ma tête quand David Hurtel vient nous parler. Mon Paul, comment tu vas, mon Paul?
Ça va bien, mon Dan.
Je suis content de te voir.
Ben oui, moi aussi.
Qu'est-ce que tu reçois ce soir?
Ben pour ma dernière, on a fini. Oui. D'abord, premièrement, je ne suis pas quelqu'un de dramatique dans la vie. Alors, j'ai décidé de terminer ça un peu en humour avec le support psychologique de mon ami Marc Labrèche. Marc m'accompagne dans ma dernière demi-heure d'animation au Québec maintenant. Alors, donc, entre 18h et 18h30. Il était très gentil de le faire. Mais il faut dire que...
Ah, mais c'est gentil, parce que tu as été sur ces émissions-là, il vient sur la tienne.
C'est tout à fait normal, après m'être sacrifié pendant plusieurs de ces émissions.
D'avoir été son souffre-douleur.
Ouais, ben oui. Alors, donc, il me devait ça. Et ça va se terminer vraisemblablement en rien, en humour. Alors, c'est ça. Et puis, on va parler de la situation d'Equifax, là. Desjardins, pas de bonne humeur, a dit que c'était inacceptable, le comportement d'Equifax avec les clients Desjardins. Et puis, on va avoir des souvenirs, parce que ça fait 12 ans aussi que je travaille avec Martin McGuire. On en a vu des vertes et des pas mûres avec les Canadiens. Et ça m'a fait bien plaisir de te côtoyer, mon cher Dan.
Ben, on va se recôtoyer encore. Le Québec est très petit. Merci, mon Paul. Dans quelques instants, un sondage nous apprend qu'une majorité de Canadiens veulent moins de réfugiés. Je vais jaser avec notre ancien ministre libéral David Hurtel dans un instant. Restez là.